Émission Sanctuaire du Monde, c'est maintenant sur Radio Maria France aujourd'hui, le sanctuaire de Notre-Dame de Montlygon avec Don Guillaume d'Anselme. Don Guillaume d'Anselme, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour Jérôme, merci beaucoup, bonjour chers amis de Radio Maria, très heureux de vous retrouver.
Voilà, donc Guillaume, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs, ceux qui ne nous connaîtraient pas ?
Bien sûr, avec plaisir. Je suis prêtre de la communauté Saint-Martin. Je suis un jeune prêtre. J'ai été ordonné il y a un petit peu plus de 7 ans. Et j'ai été nommé au sanctuaire Notre-Dame de Montlygon, qui se trouve dans l'Orne, entre Alençon, Le Mans, Chartres, Dreux, voilà, au centre un peu de ce petit coin. Et c'est ma troisième année à Montlygon, pour être chapelain avec 5 autres frères prêtres.
Alors, Notre-Dame de Montlygon, c'est un centre mondial de prière pour les défunts. Si on revient un petit peu en arrière, donc Guillaume d'Anselme, comment c'est né ? Comment c'est venu ?
Et oui, c'est assez fascinant de voir comment Montlygon s'est créé, parce que sans être complètement unique, ça reste assez rare. La plupart des sanctuaires naissent pour une raison assez simple, c'est parce qu'il y a une apparition qui s'y déroule. C'est le cas de Lourdes, c'est le cas de Pontmain, c'est le cas de la Salette, c'est le cas de etc. Il y a une apparition de la Vierge ou d'un saint qui font qu'un sanctuaire va se créer à cet endroit. D'autres sanctuaires existent parce que à l'endroit où ils sont, un saint justement a vécu. Par exemple à Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou à Ars, le Saint Curé d'Ars, etc. Et puis d'autres sanctuaires encore en France et dans le monde se créent parce que il y a une statue qui est vénérée dans cet endroit depuis longtemps, c'est souvent le cas, ou alors une statue qui a été retrouvée par un laboureur ou perdue dans un arbre, etc. Bref, qu'importe, il y a souvent, on connaît un certain nombre de sanctuaires comme ceux-là qui se sont créés. À Montlygon, il n'y a pas eu d'apparition, il n'y a pas eu de statue, et il y a peut-être eu des saints, mais ils ne sont pas connus. Personne n'a été canonisé. Et donc, c'est assez surprenant de voir qu'un sanctuaire s'est créé un petit peu, d'une certaine manière, tout seul, ici. Je connais un autre exemple, pour moi, c'est celui de Montmartre, dans lequel il n'y a pas eu d'apparition de statue ou de saint, mais une volonté des Parisiens d'avoir un lieu sur lequel vient prier. Montlygon, les choses sont passées d'une manière assez surprenante. Montlygon est un tout petit village. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 500 habitants, mais à l'époque, les choses ont commencé à la fin du 19e siècle. C'est un village qui comptait à peine 300 habitants. Et le curé de ce village, nouvellement nommé depuis quelques années, dans les années 1880, qui s'appelait l'abbé Paul-Joseph Buguet, décide d'inviter ses paroissiens à prier pour les défunts, en particulier ceux auxquels plus personne ne pense. On appelait ça les âmes délaissées du purgatoire, délaissées non pas au sens où l'Église ne prierait pas pour elles, puisque l'Église prie pour tous les défunts, notamment à chaque messe, mais au sens où personne ne pense à eux nommément, ne se souvient d'eux, personne, soit parce que, eh bien, ils n'ont plus de famille, soit parce que leur famille ne prie pas, soit parce que, voilà. Et donc, il a voulu lancer une œuvre de prière qui s'est appelée l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire, un mot un petit peu compliqué, qui aujourd'hui est devenu la Fraternité de Montlygon, Notre-Dame de Montlygon. Il lançait cette œuvre de prière qui se voulait une œuvre qui n'était pas liée à un lieu. Mais lui était curé de ce petit village, j'appelle Montlygon. Et cette œuvre, non seulement il l'a lancée auprès de ses paroissiens, mais très vite, très très vite, les curés des villages voisins lui ont demandé de venir la présenter. Et puis ensuite, les curés des villes voisines. Et donc, dès le lancement de l'œuvre en 1884, eh bien, il a commencé à annoncer et à expliquer cette œuvre dans l'ensemble du Perche, de l'Orne, déjà de la Basse Normandie et des régions autour de Montlygon. Et ça a tout de suite pris une grande ampleur, les gens ont adhéré à cette association. Fin 19e siècle, beaucoup d'associations se créent, se montent, l'Église est assez présente, les gens pouvaient adhérer facilement, il y avait une petite cotisation qui correspondait à un sou. C'est-à-dire l'équivalent de 10 centimes. Alors je pense qu'on achetait plus de choses quand même à l'époque avec un sou qu'aujourd'hui avec 10 centimes, mais ça restait très très minime. Et le seul engagement, c'était d'apporter dans sa vie le souci de la prière pour les âmes délaissées, pour ceux pour qui personne ne prie. Voilà. Sans dire, il faut absolument, je ne sais pas, réciter 5 rosaires par jour. Non. C'était simplement le porter dans sa prière, justement, que chacun y met ce qu'il veut derrière cette prière. Donc ça, cette association, on l'explique assez bien, elle s'est développée très vite. Ce qui est plus incompréhensible, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'un sanctuaire est né. Parce qu'en fait, l'abbé Buguet, en créant cette association, voulait simplement créer une œuvre de prière. non pas reliés à un lieu, mais justement qui puissent se développer un petit peu partout. Mais très rapidement, c'est-à-dire dès l'année qui a suivi la fondation de cette association, eh bien, des membres de l'association se sont dit, pour venir prier pour les défunts, il faut que nous allions dans ce village. Des gens qui habitaient à 10, 15, 50 kilomètres du village se sont dit, en fait, il faut que nous venions en pèlerinage dans ce village. Pourquoi? On ne sait pas, puisque jusque-là, il n'y avait rien, mais simplement parce que c'est le curé de ce village qui a lancé cette œuvre de prière, cette association. Et donc, lui ne pensait pas du tout un jour créer un sanctuaire. Mais parce que les gens ont commencé à venir en pèlerinage, eh bien, il a fallu les accueillir d'abord dans l'église du village, tout simplement. Et puis, comme les foules ont commencé à affluer, justement, à se dire « il faut venir prier à la chapelle Montligeon, parce que c'est là que cette œuvre de prière pour les défunts est née », eh bien, elles sont réunies ensuite sur la place du village. Et parce que la place était trop petite, parce que les structures, il n'y avait aucune structure pour accueillir ces gens qui venaient à Montligeon, eh bien, il a fallu commencer à construire quelque chose qui puisse être plus grand. Soit agrandir un peu l'église, mais c'était compliqué, le village est un petit peu resserré, soit alors trouver un lieu un petit peu au-dessus du village, juste au-dessus du village, pour construire quelque chose de plus grand. Ensuite, bien sûr, ça a pris du temps, parce qu'il faut d'abord que l'idée germe de se dire, eh bien, il va falloir construire une église et puis des bâtiments pour accueillir les pèlerins. Et au fur et à mesure qu'on cherche de l'argent pour cela, eh bien, c'est l'association qui portait, l'association de Montligeon, était en train de s'agrandir. C'est-à-dire que l'abbé Buguet a commencé à faire des tournées un petit peu partout en France pour parler de son association et même commencé à partir un peu à l'international. Il avait bien évidemment pour cela demandé l'autorisation à son évêque et puis ensuite, quand ça a commencé à dépasser largement le cadre du diocèse, il est allé voir le pape parce que cette œuvre de prière pour les âmes délaissées du purgatoire, pour ceux pour qui personne ne prie, eh bien intéressait un petit peu beaucoup de monde, intéressait d'autres diocèses, intéressait beaucoup de fidèles. Voilà. Et donc, plus les gens venaient, plus on disait les plans qu'on a faits doivent être plus gros. Parce que finalement, les foules qui viennent en pèlerinage à Montligeon, sans qu'on les ait attendues, sans que ça ait été prévu, mais sont de plus en plus importantes. Donc, il va falloir faire des plans plus importants pour l'Église. À partir du moment où il faut faire des plans plus importants pour l'Église, il faut réunir un peu plus de fonds. Donc, il faut faire des appels à dons. Et le temps de faire des appels à dons, eh bien, ça fait découvrir l'œuvre et donc plus de gens viennent. Alors, il y a quand même un moment où ça s'arrête, bien sûr, mais on voit cette espèce de cercle vertueux, en quelque sorte, dans lequel il n'était pas du tout prévu à la base ni de construire un sanctuaire, ni même un peu plus tard, quand il était prévu de faire quand même quelque chose, de faire quelque chose d'aussi grand. Mais c'est par la force des choses, par l'Esprit-Saint sans doute, le bon sens chrétien des pèlerins qui ont voulu venir prier à Montligeon, que le sanctuaire s'est créé. Donc ça, c'est comment les choses sont passées, ce qui fait que la basilique, l'œuvre de prière a été lancée, inventée en 1884. Le début de construction de la basilique de Montligeon, c'est 1896, 12 ans plus tard. Ça veut dire qu'en 12 ans, il y avait déjà des milliers de pèlerins qui venaient pour qu'on ait eu l'idée de construire une basilique si grande au milieu d'une campagne. Parce que Montligeon, encore une fois, est un village tout petit et les villes les plus proches sont aujourd'hui sont à une demi-heure de route. C'est-à-dire que la gare la plus proche de Montligeon est à une demi-heure de route. C'est dire si on est un petit peu perdu en campagne. Et en même temps, c'est aussi l'un des grands avantages de Montligeon, qui est effectivement un lieu de prière pour ceux qui sont en deuil, pour ceux qui veulent prier pour les défunts. Donc toujours cette sollicitude de prier pour ceux pour qui personne ne prie, qui était le cœur de l'œuvre, mais aussi c'est rajouté à cela prier pour tous les défunts et notamment prier pour ses défunts, pour les défunts de sa famille, pour ses amis, pour ceux qu'on a connus. Voilà. Eh bien, c'est vrai que c'est une bonne chose que ce sanctuaire ait pu se créer en pleine campagne, en pleine nature, parce que c'est un lieu qui porte loin du bruit, loin de l'agitation, et dans un cadre qui est reposant et qui nous donne envie de contempler. Voilà, de contempler et d'attendre un petit peu la vie éternelle et de s'apaiser lorsqu'on a des deuils difficiles à vivre. Donc voilà en quelque sorte un petit peu la manière dont les choses se sont lancées. Peut-être un petit mot, si vous le permettez, j'aurai un petit mot sur une autre dimension qui est importante au sanctuaire de Montligeon, qui est la dimension du travail, dont on parle un petit peu moins, mais elle a sa place. L'abbé Buguet avait un autre souci, hein, son premier souci c'était la prière pour les défunts, surtout ceux pour qui personne ne prie. Puis son deuxième souci, ça a été de se dire, il faut donner du travail aux gens parce que, fin 19e siècle, on est au moment de l'exode rural. Les gens quittent les villages, quittent le monde agricole pour rentrer dans les industries, dans les petites villes. Et son village, qui déjà n'était pas bien gros, était en train de se désertifier. Ça, c'était son premier... Et de plus, il s'apercevait, lorsque ses paroissiens revenaient revenait au village 6 mois après, parti dans une petite ville à 15-50 km de là, ils s'apercevaient qu'ils n'étaient plus allés à la messe, qu'ils avaient perdu la foi parce que confrontés au marxisme dans les industries, et puis surtout, on était portés un peu par la communauté locale, donc tout le monde se connaissait dans un village, arrivant dans une ville plus déshumanisée, ils avaient perdu la foi. Donc se disant, mon village va mourir et ma paroisse, mes âmes sont en train de mourir, un petit peu son souci. Et de se dire, il faut donner du travail aux vivants. Avec ce double souci, il faut prier pour les morts, il faut prier pour les défunts, ils ont besoin de nos prières. Et il faut donner du travail aux vivants, et c'est aux défunts que nous allons demander ça. Nous allons demander aux défunts de donner du travail aux vivants, et nous allons prier les défunts pour cela. Et en même temps qu'il prie, parce que c'est un homme de prière, un homme de foi, on le sent bien à travers ses œuvres, c'est aussi un homme d'action. Ça, j'admire beaucoup ça chez ce curé, comme de se dire pas simplement notre prière et la dimension spirituelle, mais il faut se retrousser les manches. Et donc il va lancer des ateliers, il se dit « aide-toi aussi, le ciel t'aidera », si vous voulez. Il va lancer des ateliers de couture, de ganterie, des différentes choses qui ne vont pas très bien marcher parce que ce n'est pas compétitif comparé aux industries qui naissent dans les villes un peu plus loin, mais qui montrent qu'il a voulu lancer des choses et qui ne sont pas reliées à cette œuvre de prière pour les défunts finalement, qui sont des choses qu'il a voulu lancer lui-même. Et ça ne va pas marcher. En revanche, parce que son œuvre de prière pour les défunts se développe, il se dit qu'il faut faire un petit bulletin pour justement donner une formation aux associés de l'œuvre sur la vie éternelle, sur le purgatoire, sur la prière, et puis donner un peu des nouvelles de l'association. Et pour créer ce petit bulletin qui a pour finalité, qui a pour but de développer l'œuvre de prière pour les défunts, eh bien il va créer une petite imprimerie. Et cette imprimerie, elle va très bien marcher, puisqu'elle va, pendant plus de 120 ans, si vous voulez, cette imprimerie va faire la réputation de Montlignon. Elle accueillait jusqu'en 2010 un peu plus de 250 salariés. Ce qui est assez beau, c'est de voir que cette imprimerie, elle s'est montée justement pour développer la prière pour les défunts, un peu comme une réponse à ce souci qu'il avait de se dire « nous prions les défunts et eux donnent du travail aux vivants ». Ce qui fait que Montlignon, au lieu d'être un lieu d'où on partait pour trouver du travail, est devenu un lieu où l'on venait pour trouver du travail. Voilà. Et ça, c'est assez beau. L'imprimerie de Montlignon, elle a malheureusement fait faillite en 2010, un petit peu comme beaucoup d'imprimeries en France, entre 2005 et 2015, qui sont le moment où chacun chez soi a une imprimante, ce qu'on appelle le tournant numérique en fait, qui font que ces imprimeries de taille intermédiaire étaient trop petites par rapport aux grands groupes internationaux avec des milliers de salariés, et trop grosses pour pouvoir survivre par rapport à des petites entreprises de 2 à 10 salariés qui peuvent encore, qui pouvaient tenir. Voilà, donc elle a pas pu tenir. Maintenant, la dimension travail n'est pas perdue à Montlignon, c'est une des dimensions importantes qui demeure. Et donc, nous accueillons sur le site de l'ancienne imprimerie des artisans. Voilà. Ça, c'était pour la partie un petit peu de travail qui est pas séparée de la partie prière. Parce que la partie sociale est très importante dans l'église d'abord, mais aussi à Montlignon. Mais c'est vrai que Montlignon est quand même surtout connu pour cette œuvre de prière pour les défunts.
Oui, et grâce à la présence de cette fraternité spirituelle de Notre-Dame de Montlignon, on peut effectivement faire partie de cette famille pour toutes les intentions de prière qu'on peut laisser pour des défunts, mais aussi pour soi-même, pour des proches.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'origine, donc, l'œuvre de prière, je vous l'ai dit, a été faite pour les défunts auxquels personne ne pense. Mais très rapidement, et on le comprend très facilement, très rapidement, ceux qui étaient faisaient partie de l'association disaient « écoutez, je viens de perdre ma maman, je viens de perdre mon frère, je viens de perdre ma grand-mère, je viens de perdre, je ne sais pas ». Et donc, en plus de prier pour ceux pour qui personne ne prie, moi je vais prier pour ma maman, mais je recommande aux autres membres de l'association de prier aussi pour maman, je leur demande cela. Et on comprend comment très vite est arrivé en lien avec la prière pour ceux pour qui personne ne prie, la prière pour des personnes qui étaient nommément désignées, qui étaient connues par des membres de l'association. Et donc, ça a été la deuxième dimension qui s'est rajoutée presque dès le début, de dire à Montlignon, on ne prie pas seulement pour qui personne ne prie, mais aussi pour nos défunts. C'est un petit peu logique. Et ça, c'est quelque chose donc, qui a été lancé fin 19e siècle, mais qui existe toujours. C'est le cœur de l'œuvre de Montlignon. C'est le but un petit peu de l'œuvre de Montlignon. C'est cette Il est double, j'ai envie de dire. Prier pour les défunts, soit ceux pour qui personne ne prie, soit les nôtres, j'ai envie de dire. La deuxième partie, c'est accompagner les personnes qui sont en deuil. Accompagner, réfléchir sur ce que l'Église nous dit, notre espérance de la vie éternelle, ce qu'est le purgatoire, le sens de notre prière, et accompagner ceux qui ont, soit n'ont pas l'espérance, soit ont de l'espérance, mais ont quand même besoin, juste même en ayant l'espérance, ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils ont leur deuil à faire. Voilà. Donc ça, cette association de Montligeon qui s'est créée, elle a notamment pour but de prier pour les défunts. Et elle le fait à travers deux manières, j'ai envie de dire, complémentaires qui sont assez belles. L'abbé Buguet, c'est d'abord et avant tout un curé de village, et son association, il a voulu en faire une œuvre eucharistique, une œuvre centrée sur la messe. Il voulait que ce soit d'abord à la messe qu'on prie pour les défunts. Donc il a lancé ce qu'il a appelé la messe perpétuelle, c'est-à-dire que les âmes délaissées du purgatoire, ceux pour qui personne ne prie, on pourrait-on dire aujourd'hui, eh bien, sont portées par la prière de la messe à Montligeon. Tous les jours, la messe est célébrée juste pour cela, pour les membres de l'association et ceux pour qui personne ne prie. Mais comme je vous l'ai dit, très vite, les membres de l'association ont rajouté des personnes auxquelles ils pensaient, et donc on a cette messe perpétuelle qui chaque jour est offerte par le sanctuaire à un prêtre pour qu'il puisse célébrer la messe justement à cette intention. Elle est célébrée pour ceux pour qui personne ne prie, ceux qui font partie de l'association et ceux qui ont été recommandés. Et parfois, beaucoup sont recommandés par des gens qui ne font pas partie de l'association. C'est pas grave, tout le monde peut recommander quelqu'un à Montligeon. Le but, c'est de permettre à toute personne en deuil de pouvoir recommander son défunt pour qu'on puisse prier pour lui. Mais assez rapidement, on va se dire, puisque la messe est perpétuelle, puisqu'elle dépasse le cadre du temps, c'est pas seulement les défunts pour qui on va prier. On va permettre de recommander quelqu'un à Montligeon pour qu'on prie pour lui maintenant, même s'il est vivant, et sans limite de temps. Tous les jours, la messe sera célébrée pour lui, mais pas simplement pour lui, hein, comprenons-le bien, c'est une messe commune, une messe pour tous ceux qui ont été recommandés à la fraternité de Montligeon. Voilà. Donc ça, c'est l'œuvre de Montligeon, la recommandation à la fraternité, quelque chose que nous cherchons à développer, à inviter les gens à recommander ceux qu'ils aiment eux-mêmes d'abord, ils peuvent se recommander eux-mêmes à la prière de Montligeon, et puis recommander ceux qu'ils ont aimés pour que la messe soit célébrée pour eux à partir de ce jour-là, mais sans limitation de temps. À perpétuité, en tout cas, tant que Montligeon existe, parce que je ne sais pas ce qui se passera d'ici la fin du monde, bien sûr, mais à vue humaine, sans limitation de temps. Voilà. La deuxième chose qui porte, donc la prière de la messe, la deuxième chose qui fait partie de l'œuvre de Montligeon, c'est la prière des groupes de prière, notamment le chapelet. Montligeon s'est répandu, je vous l'ai dit dès le début, nationalement et puis internationalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'œuvre de Montligeon est présente dans 45 pays dans le monde. C'est à la fois beaucoup et pas tant que ça, ça pourrait être plus, mais c'est très beau. Notamment en Afrique francophone, beaucoup, mais aussi en Amérique du Sud, au Guatemala par exemple, ou en Amérique du Nord, au Canada, en Corée, à Taïwan, etc., en Russie, un certain nombre de pays dans lesquels des petits groupes de prière, un ou plusieurs, se sont montés en lien avec le sanctuaire pour se réunir entre une fois par semaine, une fois par mois, prier le chapelet en lien avec le sanctuaire de Montligeon, pour tous ceux justement à qui ont recommandé à être portés par la prière du sanctuaire. Voilà.
Alors donc, Guillaume d'Anselme, aujourd'hui, quels sont les événements, les propositions qui existent donc au sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon? Et si vous avez des projets à venir, malgré la crise un peu que nous traversons en ce moment, comment vous faites alors?
Alors bien évidemment, comme tout le monde, le sanctuaire a été impacté par la situation sanitaire, et puis c'est partie aussi de notre souci de prière. Bien sûr, toutes les personnes peuvent être touchées par ces événements. Au sanctuaire, de manière habituelle, et je vais plus détailler de manière habituelle, parce que finalement aujourd'hui il y a des restrictions un petit peu sur le nombre, mais les événements continuent d'avoir lieu. L'un des grands moments phares de l'année au sanctuaire, c'est ce qu'on appelle les pèlerinages du ciel, qui ont lieu au mois de novembre, puisque le mois de novembre c'est le mois traditionnel de prière pour les défunts. Donc évidemment, à Montligeon, où c'est le cœur un petit peu de l'association, de l'œuvre, eh bien c'est un mois qui a son importance. Donc tous le 1er novembre, le 2 novembre, le jour des la Toussaint, le jour des défunts, et puis les trois dimanches qui suivent chaque année, cette année ça tombe le 8, le 15 et le 22, mais chaque année les trois dimanches qui suivent le 2 novembre, eh bien il y a une journée de pèlerinage, non pas en marchant, une journée, je ne vais pas dire statique, mais c'est un pèlerinage où les gens viennent à Montlignon et on leur propose de vivre une journée de prière pour les défunts, avec la grand-messe solennelle. En général, nous demandons à un évêque de venir la présider, avec bien sûr le repas ensuite au sanctuaire, qui a quand même des capacités pour accueillir les pèlerins, avec une petite préparation spirituelle avant la messe, et puis le chapelet, un enseignement donné par l'évêque en général sur les fins dernières, sur la communion des saints, sur le purgatoire, sur la prière pour les défunts, sur un thème lié à l'espérance chrétienne. Et puis ensuite les vêpres, l'adoration du Saint-Sacrement. Bref, une journée consacrée à la prière pour les défunts, mais ensemble. Et ce sont des journées très populaires, très, très, très joyeuses, à la fois joyeuses et porteuses, je dirais. Joyeuses au bon sens du terme. Joyeuses non pas au sens où il ne pourrait pas y avoir des personnes en deuil, mais joyeuses au sens où nous sommes heureux de pouvoir prier ensemble et de célébrer l'espérance chrétienne. Donc les pèlerinages du ciel. Et puis ensuite, toute l'année, le sanctuaire organise un certain nombre d'événements, des sessions deuil, des sessions pour vivre un petit peu son deuil, soit sur un week-end ou sur 2 jours, soit sur 5 jours, un petit peu plus longs, mais permettant d'aller plus en profondeur. Mais pas forcément, tout le monde ne peut pas forcément faire une session de 5 jours, donc un certain nombre dans l'année. Toutes ces sessions, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient les retrouver, j'en profite, c'est assez facile. Il suffit de taper, par exemple, « Montlignon deuil » dans votre moteur de recherche et vous tomberez très vite sur les pages qui y sont dédiées. Montlignon, pèlerinage du ciel, vous tomberez sur la page dédiée. Nous avons des sessions donc liées au deuil. Mais nous avons aussi d'autres sessions liées à d'autres activités qui sont moins directement portées par le deuil, mais parce qu'il y a des demandes en fait, et le sanctuaire a développé cela aussi, des sessions famille, des sessions pour les couples, des sessions pour les mamans, des pèlerinages pour les pères et les mères de famille. Donc tout ce qui tourne autour de la famille. Et là, de la même manière, pour trouver un petit peu les dates ou les modalités, il suffit de taper Montlignon famille, Montlignon couple, etc. Voilà. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension du travail. Je vous ai dit que le travail et la dimension sociale avaient de l'importance. Donc nous faisons un petit peu des journées de récollection ou des semaines pour ceux qui souffrent au travail ou de réflexion sur le travail ou pour les soignants, pour les enseignants, pour différents types de personnes. Voilà. Et enfin, eh bien, comme dans chaque sanctuaire, il y a des journées un peu spi ou des week-ends un petit peu spirituels pour réfléchir sur un thème, sur la place de la Vierge Marie, sur l'eschatologie, donc les fins dernières, la dernière avait eu lieu sur redécouvrir la messe. On s'était dit qu'en ce temps où nous avions été privés de messe, ça valait le coup, etc. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner le calendrier des sessions, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ceux qui le veulent peuvent le trouver assez facilement sur le site de Montlignon. Ou alors en tapant dans leur moteur de recherche Montlignon, suivi de ce qu'ils recherchent, deuil, famille et travail, etc., spirituel, et devraient trouver assez ça. Ce qui est important, c'est de retenir que Montlignon, on peut y venir individuellement, en famille ou en groupe, voire assez gros. Enfin, en tout cas, des groupes de 200 personnes peuvent loger au sanctuaire. Il y a 300 places de l'hôtellerie. Mais il y a aussi des maisons pour que les familles puissent venir passer 2, 3, 4, 5 jours au sanctuaire sans être forcément... en ayant un peu leur autonomie aussi. Voilà. Donc venir comme pèlerin individuel à Montlignon, venir en groupe, c'est une belle manière de pouvoir vivre son deuil ou découvrir tout simplement ce sanctuaire qui est aussi celui de l'espérance.
Alors, Don Guillaume d'Anselme, c'est bien la communauté donc Saint-Martin qui est présente, ce sanctuaire. Vous êtes combien dans la communauté ?
Alors, le sanctuaire a été confié depuis 20 ans à la communauté Saint-Martin par l'évêque. C'est un sanctuaire diocésain. L'évêque l'a confié à la communauté. La communauté Saint-Martin, sur le sanctuaire, nous sommes 6 prêtres, dont 2 qui sont à mi-temps. Ça fait l'équivalent de 5 prêtres, si vous voulez. Ce qui est riche, ce qui est beau, parce que ça nous permet donc non seulement d'accueillir les pèlerins et de pouvoir leur proposer justement une vraie dimension spirituelle, des confessions, etc. Ça permet aussi de rayonner un peu. Je vous ai parlé de cette dimension internationale. Donc ça permet de pouvoir accompagner les groupes de prière en France et dans le monde, et puis d'aller voir un petit peu dans les paroisses et essayer de prêcher sur les fins dernières, sur l'espérance chrétienne. C'est quelque chose d'important. Il y a aussi 12 religieuses d'une communauté qui s'appelle la communauté de la Nouvelle Alliance. 12 religieuses qui sont au service du sanctuaire, qui aident au sanctuaire et qui portent notamment la vie liturgique, voilà, avec les offices, les temps d'adoration et de confession, temps d'adoration, le chapelet, etc. Voilà. Et puis le sanctuaire, pour pouvoir accueillir les pèlerins, a une trentaine de salariés qui accueillent un petit peu les pèlerins pour qu'ils puissent se sentir chez eux et être détendus pour pouvoir vivre ce qu'ils ont à vivre dans le sanctuaire.
Et donc, Guillaume d'Anselme, est-ce qu'on a une idée un petit peu de la taille, donc de la famille, on va dire, de la famille des différents groupes de prière en France ou ailleurs ? qui font partie de cette grande famille de Notre-Dame de Montlignon?
On a à la fois une idée précise et on n'a pas d'idée du tout. C'est-à-dire que les groupes de prière, nous cherchons à maintenir un contact avec eux qui soit régulier, ce qui fait que nous connaissons les groupes de prière. Quand quelqu'un nous dit, je suis tel département, on est capable de dire, vous avez 9 groupes de prière dans ce département qui se trouvent là, là, là et là, etc. Donc il y a 600 groupes de prière en France et il y en a 500 autres à peu près dans le monde, dans les autres pays du monde, en gros, si vous voulez. Mais ça, nous les connaissons. En revanche, le nombre de membres de l'association, paradoxalement, nous ne le connaissons pas. Pourquoi ? Chaque année, toutes les personnes qui sont recommandées à la prière de Montlignon sont inscrites dans des registres. Chaque année, ça fait environ 45 000 personnes. En tout cas, c'était le nombre qu'il y a eu en 2019 à peu près. Des personnes qui ont été confiées à la prière de sanctuaire pour la messe perpétuelle. Mais combien de personnes sont membres de l'association, sont vivantes et prient autour de Montlignon, nous n'en savons rien. Nous avons des registres, mais ces registres ne tiennent pas compte forcément des décès. Et puis surtout, ces registres jusqu'en 1995 étaient des registres papier. Alors que depuis 1995, bien sûr, les choses sont informatisées. Mais donc, nous savons qu'il y a des centaines de milliers de membres de l'association sans pouvoir donner un nombre. Et après tout, qu'importe, on n'est pas là pour compter, mais pour savoir que, effectivement, la prière, j'ai envie de dire, la prière monte vers le Seigneur, vers le ciel, de la part d'un grand nombre de personnes qui prient pour les défunts en lien avec Montlignon.
Voilà, donc Notre-Dame de Montlignon, sanctuaire, lieu de pèlerinage, centre mondial de prière pour les défunts. En tout cas, merci beaucoup, Don Guillaume Dansel, pour ce temps de partage.
Eh bien, avec grand plaisir. Merci, Jérôme. Merci, chers auditeurs. Et à bientôt, j'espère.
À bientôt.